Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est ici que se situe la limite absolue du relativisme culturel, cette attitude ou croyance qui voudrait qu'on comprenne et qu'on accepte les cultures différentes de l'intérieur et qu'on ne les juge pas du haut de nos valeurs occidentales. C'est le point au-delà duquel on ne peut plus rien accepter. Nous sommes au seuil de l'injustifiable, de l'inadmissible. Selon l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF en 2012, 130 millions de femmes seraient ainsi excisées dans le monde, dont 3 millions de petites filles chaque année. Un tiers des Africaines sont victimes de cette mutilation. Sur le sol français, entre 55 000 et 65 000 filles et femmes subissent des mutilations sexuelles ou en sont menacées. Si dans la plupart des pays du monde, ces pratiques dites ancestrales sont illégales, la tradition et le secret l'emportent souvent. Dans tous les pays occidentaux, l'excision est bien un acte criminel, passible en France de 10 ans de prison ou de 15 si la victime est mineure. La jeune fille demande à ce qu'on l'appelle Badrouma, ce n'est pas vraiment un faux nom, car c'est celui de sa grand-mère qu'elle a choisi pour nous raconter son histoire depuis son lit d'hôpital. Elle est chrétienne, fervente, sa famille vit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'opération du clitoris qu'elle va subir, si on peut dire, a été inventée il y a 30 ans par le chirurgien urologue et humanitaire Pierre Foldès. Elle est remboursée par la Sécurité sociale et l'aide médicale d'État depuis 2004. Cette technique est pratiquée sous anesthésie générale dans plusieurs centres hospitaliers en France, comme le CHU de Poitiers. Elle est pratiquée là par le gynécologue Richard Sarfati. Badrouma est à l'époque où nous diffusons cette émission pour la première fois, la 35e femme qui l'opère. Et c'est un reportage de Cerise Maréchaux que nous avons donc diffusé pour la première fois en avril 2012.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'est début janvier que j'ai découvert qu'il y avait cette solution d'opération pour reconstruire des femmes. Je sens que on va me détacher en fait. Je me sens déjà libre.
Vous avez pris une douche à la bétadine, douche et shampoing à la bétadine?
Oui, j'ai fait ça hier soir et ce matin, c'est un produit qui est un peu
orange et rouge. Voilà.
Vous n'avez pas mangé?
Non. Depuis, on m'avait dit à partir de minuit, il faut prendre.
Pas de gomme, pas de chewing-gum, rien du tout. Pas de... Je vais vous accompagner dans votre chambre.
Vous avez bien dormi quand même?
J'ai dormi un peu tard, j'ai dormi à 1h du matin, je me suis réveillée à 5h30. Mais ça va.
Vous pouvez poser vos affaires.
Comment vous vous sentez?
Je me sens bien. Donc j'ai mis ma confiance en Dieu et aussi à Docteur Sarfati pour la reconstruction et tout ça quoi. Quand j'ai été excisée depuis mon enfance, je me sentais attachée.
Badrouma, vous avez quel âge?
Là j'ai 27 ans. Donc ça fait 7 ans que je suis en France. Je suis ici sans famille, en fait. Personne ne cherche à savoir où est-ce que je suis. Ma famille sont Burkina, en fait. Et j'ai été élevée par ma grand-mère. On m'a mis aussi à l'école. Et puis, jusqu'à un certain âge, j'ai arrêté l'école au CM2. L'excision, ça se passait quand j'avais l'âge de 5-6 ans. Un jour, j'étais à l'extérieur en train de jouer avec les autres enfants. Et il y a la femme de mon oncle. Donc, elle est venue me trouver quand j'étais là en train de jouer. Et puis, elle m'a pris, elle me dit, tu viens, nous allons danser, chanter, on va dans un baptême et tout. Et puis, elle m'a porté dans son dos. Et quand on est arrivé, on était assis et puis on attendait. Je voyais beaucoup de femmes et tout. Et puis après, ils m'ont blagué pour m'amener aux toilettes. Et puis ils ont mis un grand plastique transparent. Et donc, il y a des femmes qui m'ont attrapé à droite, à gauche, les bras, les jambes écartées et tout. Ils ont commencé à m'exciser. Et donc, je voyais du sang partout. J'ai crié fort. Je ne savais pas quoi faire, ça me faisait très mal. Moi, j'ai pleuré, j'ai crié, je les insultais, mais ils rigolaient, ils étaient autour, quoi. Ils rigolaient en me faisant ça. Ils disaient tigé, tigé, ça veut dire couper. Et kené, kené, c'est excisé. Et on m'a cousu. Et puis après, ils m'ont attaché un morceau de tissu sur ma taille. Au milieu de mes jambes, comme on s'habille les esclaves qui ont un tissu juste à la taille, en fait. Et puis après, on m'a ramené à la maison, j'ai perdu beaucoup de sang et tout. Et puis je pleurais très fort. Et donc, ça a duré longtemps que j'avais mal et tout. Et puis après, la douleur est passée, mais à chaque fois que j'allais aux toilettes ou je vais prendre la douche, et je voyais toujours cette blessure, cicatrice et tout. Donc ça me rappelait toujours ce que j'ai vécu. Parfois, je refusais d'aller prendre la douche avec les autres enfants parce qu'il y avait les cicatrices et tout qui étaient présents et tout. Quand des autres voient ça, ils vont aller parler de ça entre eux à l'extérieur. Il y en a qui se moquaient de moi en me disant que je ne suis pas bien excisée. Il y en a qui prenaient ça en rigolant pour se moquer de moi, pour m'embêter et tout. J'avais honte. Donc je me cachais en fait.
Déjà, je vais vous donner un petit bracelet qui vous identifie. Hop. Donc, votre situation familiale, vous êtes séparés. Hop. Est-ce que vous avez des enfants?
Non, j'ai pas des enfants, non.
Pas d'enfants.
Oh, pas pour le moment.
Ouais. Est-ce que vous travaillez?
Non, pas pour le moment. Je ne travaille pas.
Sans emploi. Alors, vous passez en fin de matinée, début d'après-midi, hein, certainement.
L'opération, ça commence à fin matinée. Ouais. Mais quand on me fait endormir, après, comment ça va se faire que je puisse me réveiller?
Le produit va se dissiper tout seul, en fait. Il ne fera plus d'effet sur votre corps, en fait. Et c'est pour ça que vous allez vous réveiller. Vous avez un téléphone portable, je vois.
Mon téléphone, ma Bible.
Écoutez, moi, je vais arrêter de vous embêter. Je vais juste vous demander une petite signature ici.
D'accord, ok.
Donc, oui, juste. Là, c'est parfait. Donc, je reviens vous voir un peu plus tard pour le champ opératoire.
D'accord, ok.
Allez, à tout à l'heure.
Hasta la... Quand j'ai rencontré mon premier petit ami, j'étais vierge. Ma première rapport sexuel, j'avais mal. Je ne supportais pas. Je l'ai rencontré, c'était un chanteur et tout. Bon, c'était mon premier amour. Donc j'étais très très amoureuse. Mais ça a duré 2 mois parce qu'il y avait, il voyait aussi une autre fille ailleurs. Donc ça m'a beaucoup blessée, j'ai beaucoup souffert. Et avec la personne qui j'avais commencé à avoir mon plaisir, c'était mon ex-mari, avec l'homme avec qui j'étais mariée. Mais c'était plaisir, qui, je ne sais pas, ça vient tout petit peu comme ça disparaît. Tout de suite. Et il fallait que ça vienne dans la tête. Dès que je commence à avoir seulement mon plaisir, puis ça disparaît.
Alors lui, vous l'avez épousé?
Oui. Au début, je ne l'aimais pas, en fait. Je ne sais pas, j'ai pris la décision de me marier avec lui parce que le fait qu'il a joué beaucoup de comédies, que parce qu'il était tombé amoureux de moi, que voilà, j'étais la personne la plus importante dans sa vie et tout. Son visa était terminé, il ne voulait pas rentrer en France, me laisser. Il me disait qu'il allait mourir et tout ça, quoi. Il m'avait tellement touchée que... je ne voulais pas lui faire de mal. J'étais tombée vraiment dans son filet, dans ses pièges.
Donc votre ex-mari, il venait de France?
Oui, il est blanc. Donc il venait au Burkina depuis des années, je ne le connaissais pas. Donc c'était cette année-là que je l'ai connu, c'était en 2004. Et donc il n'était pas le seul blanc qui vient dans mon pays pour me demander un mariage et tout. Il y avait plusieurs Européens aussi qui venaient de mon pays, Belgique, Français, Suisse et tout ça. Mais pour moi, j'étais encore très jeune et puis j'avais besoin aussi d'être stable, de travailler et tout, de ne pas faire n'importe quoi, venir ici et tout. Mais avec lui, il n'a pas été patient en fait. Il avait commencé à faire mes papiers, mais je n'étais pas au courant. Il a payé mon billet d'avion, il a fait mon passeport et tout. Et donc quand on est arrivé ici, il m'a dit tout ce que lui, il a payé pour moi, comme billet d'avion, mon passeport, il faut que je le rembourse tout. Je lui ai dit que j'ai été excisée. Il n'a rien dit. Bon, il avait une maladie de sexe, quelqu'un qui voulait faire l'amour plusieurs fois par jour. Il m'obligeait et tout. Parfois, même si je me sentais mal, je lui laissais faire quand même. Et il y a des moments aussi, c'était trop. Parce qu'on ne peut pas accepter aussi de faire amour tout le temps, 5-6 fois dans la journée, à chaque fois, la nuit, pareil et tout. On ne peut pas. Il y a des moments quand j'accepte, je me laisse faire, je me laisse aller vers lui. Il fait comme il veut jusqu'à ce qu'il termine, c'est tout. Mais même pas une heure après encore, il veut. Dans sa tête, c'était ça en fait. Voilà, je sais que c'était mon mari, donc je ne pouvais pas refuser et tout. Jusqu'à un moment donné, mon dos était bloqué, donc j'ai eu mal au dos. Et je suis allée voir le médecin, et le médecin m'a dit d'aller faire la radio. Et quand je suis allée faire la radio, on a vu que y a quelque chose qui était déplacé dans mon dos, en fait, par rapport à ça. Et donc, quand je lui ai annoncé ça, il n'a pas voulu accepter. Il me dit non, c'est la danse et tout. Mais moi, je dis, depuis mon enfance, je danse, j'ai jamais eu une blessure au dos.
Donc, vous êtes danseuse?
Voilà, je suis professeure de danse. Donc je danse, je chante, je joue aussi la musique. Je faisais des clips, des spectacles, j'ai donné des stages de danse. Bon, je faisais beaucoup de choses en fait. Et jusqu'à ce que j'ai rencontré mon ex-mari pour venir en France. Et il a dit à ses parents que moi dans mon pays je suis une grande star. Et ce que moi j'ai fait dans mon pays, quand je vais faire ça ici, lui il va beaucoup gagner avec moi. Il voyait un trésor chez moi, il avait besoin de ça en fait pour vivre. Et donc à chaque fois que je gagnais de l'argent, il prenait mon argent pour aller s'acheter des vêtements, des ordinateurs et tout, pour garder pour lui. Et donc il était gravement malade aussi, de la jalousie en fait. Donc je n'avais pas le droit de discuter avec des garçons. même des amis que je connais et tout. Même parfois, je n'avais pas le droit d'aller voir mon propre frère et tout. Parce que, voilà, si je vais là-bas, mon frère va coucher avec moi et tout. Donc, c'était comme ça, en fait, dans sa tête. Donc, il me séparait de tout le monde. Donc, je ne pouvais plus sortir, ni pour aller travailler, ni pour aller danser, ni pour sortir, pour aller me promener, ni aller voir des gens. Donc, à chaque fois, il me disait qu'ici, en France, quand tu sors à l'extérieur, il y a des hommes qui ont des camions, qui attrapent les jeunes filles pour les mettre dans les camions, pour les emmener loin, pour aller les violer et tout ça, pour les faire disparaître et tout. J'avais toujours peur. Quand même, dans la journée, quand je sortais, j'avais peur. Donc, j'étais toute seule. Il sort comme, quand il veut, il rentre quand il veut. Dès qu'il rentre, seulement c'est pour coucher avec moi. Il sortit, me laisser. Il faudrait que je fasse le ménage, je fasse la vaisselle, tout ce qui est comme une femme de ménage. J'étais comme une esclave, en fait.
Vous vous êtes séparés quand ?
On s'est séparés en 2006. Et donc, ça faisait 5 mois qu'on était mariés, donc on allait se séparer déjà, et j'ai refusé de lui faire du mal. Comme c'était mon mari, et le fait aussi qu'il jouait encore ses comédies pour me demander, en me demandant pardon, que ce que lui, il m'a fait, il ne va plus jamais me faire ça, en fait. Il prenait beaucoup la drogue, c'était comme dans sa nourriture et tout ça. Il était très, 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 très méchant. Il souhaitait vraiment ma mort. J'ai été beaucoup agressée, en fait. Très souvent, j'étais hospitalisée. Après, quand je rentre à la maison, c'était encore les violences. C'était tout le temps les violences. Donc, quand je suis hospitalisée... Il vient à l'hôpital, dès que les médecins le voient venir, on appelle les gardes de corps qui le mettent dehors. Après, quand tout le monde est rentré dans le bureau, il rentre avec la force. Et il commence à se mettre à pleurer et tout. Donc je lui pardonnais et puis je retournais avec lui. Et quand je retourne avec lui, une semaine après, ça commence encore. Il me menaçait de me tuer, d'aller me jeter dans un endroit, de me couper en petits morceaux là où personne ne peut me trouver et tout. Il y avait beaucoup de choses. Hein. Il souhaitait vraiment que je meure. Donc il me disait, il faut que je meure, il faut que je meure.
Je vais avoir quelques petites questions pour savoir au niveau de... Est-ce que vous êtes rasée?
Non, d'accord. J'ai pas pu le faire.
D'accord, non, mais il n'y a pas de souci. Donc tout à l'heure, je reviendrai juste vous voir. Ce sera pour ce qu'on appelle le champ opératoire. Donc pour vous raser. Mais écoutez, on verra ça tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Je me posais toujours des questions, pourquoi on m'a fait ça? Et on nous fait du mal, ils ne savent pas qu'ils sont en train de nous faire du mal. Ils pensent que c'est quelque chose qui est normal, la vraie culture et tout, dont j'ai appris par d'autres personnes aussi qui ont eu ça. Ils font ça parce qu'ils ne veulent pas que les femmes aillent voir des hommes ailleurs et tout. J'ai appris aussi qu'il y en a des femmes qui ont été excisées quand ils tombent enceintes et que quand, pendant leur accouchement, on les déchire pour enlever l'enfant. Donc avec ça, j'ai trouvé que ce n'était pas normal aussi. Et donc tellement je souffrais de l'excision, de mon mariage, de tout. À chaque fois, le soir, avant de m'endormir, j'ai demandé à Dieu de me guérir. Chaque partie de mon corps, et surtout la partie là où j'ai été excisée. Et donc, c'est quelques semaines après, j'ai découvert par des amis qu'il y avait une reconstruction, l'opération. Dans ça, je ne savais pas, mais je priais d'être guérie. Je ne sais pas ce qu'ils ont enlevé à l'intérieur, je ne sais pas. Ils ne m'ont pas expliqué, ils ne m'ont jamais expliqué. En moi, j'ai l'impression que j'ai perdu quelques parties de mon corps. Donc, je pense que après la reconstruction, je vais être moi-même. Stable, forte, plus de honte en fait.
Et votre famille, ils sont au courant de l'opération ?
Oui, j'ai appelé ma maman, je lui ai expliqué. Et j'ai appelé aussi mes frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, je les ai expliqués. Ils m'ont dit c'est bien. Après, ce que je vais devoir faire, c'est d'aller à l'école pour bien apprendre encore plus à parler le français, à écrire, à lire. Même si je sais parler le français, mais j'ai été à l'école, j'ai arrêté au CM2, donc je voulais continuer en fait. Même si j'ai 27 ans, mais pour aller à l'école des adultes en fait. Et aussi de former une compagnie de danse en groupe. Bon, c'est pas un travail facile aussi. C'est une nouvelle vie qui commence.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Oui, ça va.
Yam, bien
oui.
Dormi?
Oui.
D'accord. Je vais vous rappeler donc ce que je vais faire tout à l'heure. Hein. Vous allez passer au blog d'ici environ 2 heures. Vous allez être endormi. Donc, une fois que vous serez endormi, donc, je vais faire la réparation. Ça va prendre à peu près 30-40 minutes. Je vais faire ressortir le clitoris pour le laisser à nu. Petit à petit, la peau va recouvrir ce clitoris. Et plus tard, donc, d'ici un mois et demi, 2 mois, lorsque ça sera entièrement recouvert, on considérera que vous êtes guéri. Et lorsque vous partirez demain, vous aurez des médicaments pour la douleur. Et il ne faut surtout pas que vous ayez mal. C'est ça qui est important. Parce que si vous avez mal, des fois, ça rappelle la douleur de l'excision. Hein.
Ah ouais.
Je ne veux pas que vous ayez mal pour pas que vous vous rappelez de votre excision.
D'accord.
Voilà. Après la réparation, il faut vivre comme avant.
Je suis contente. Je me sens déjà libérée. Oui, ça va. J'ai en train de prier. Yeah.
C'était l'histoire de Badrouma et du docteur Sarfati, un reportage de Cerise Maréchaux réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Badrouma, au docteur Sarfati, à Stéphane Marie, à l'équipe du service gynécologique du CHU de Poitiers. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, mais Sandrine Chaperon n'est jamais loin. Et il y a aussi pour préparer ses Pieds sur Terre, quartier d'été, Zoé Marie Roulier. Et aussi, bien sûr, comment l'oublier, Alexandre Dang.